Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Loisir, le club du vendredi qui accompagne votre congé de fin de semaine. Et ce matin, pourquoi les comédies romantiques nous font du bien, de Love Actually à Bridget Jones, pourquoi nous aimons nous lover dans ces contes de fées modernes, petite sélection à regarder seule, à deux ou en famille. La journaliste Christy Lapelle-Edouelle vous conseillera deux livres bienfaisants, notre chef Grégory Cohen vous proposera une recette à déguster passionnément en couple. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Grand amateur de comédies romantiques, quel est le menu de votre chronique philo ce matin ?
Eh bien évidemment, on va parler d'amour avec une question. L'amour est-il un destin ou une aventure ? Est-ce que ça relève du choix ou du scénario ? Bref, voilà, comment écrire nos vies amoureuses.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre ami cette semaine ?
Un homme tellement beau et qui, en fait, dont le métier est de vendre, éventuellement même de la beauté. Il n'a pas l'air romantique, mais c'est fou comme il l'est.
Bonjour Maïma Zorette.
Salut Ali.
Au menu de ta chronique sexe.
Eh bien, au menu, moi, tu sais, je suis une âme sensible, je suis un cœur tendre, je suis hyper fleur bleue. Et quand est-ce qu'on fait l'amour dans cette histoire ? Eh bien, est-ce qu'il faut être amoureuse pour faire l'amour, tout simplement ?
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rebéhi, grand bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéhi.
Notre chef bien-aimé, on attend avec impatience l'ouverture de votre restaurant, le Père Joseph à Ruel Malmaison. Faites-nous saliver avec la recette du week-end. Alors j'ai dit que c'était une recette à déguster en couple, mais on peut également la déguster seule.
Ah oui, on peut se faire des
ou
petits...
Ou en famille.
Bah exactement, en fait c'est une recette qui marche pour
C'est une recette quoi.
C'est une recette. Maintenant je l'ai un petit peu améliorée parce que j'ai mis un petit peu de caliente, donc il s'agit d'un ceviche de dorade. On va mettre un petit peu de gingembre, un petit peu de piment, pour essayer de relever un petit peu tout ça et nous donner très chaud.
J'aime bien votre manière de dire piment, là, comme ça. C'est très évocateur.
C'est parce que je l'ai inspiré.
Une question cuisine. Deux mots de qui nous demande comment réussir ma pâte brisée que je rate inratablement.
Ah oui, alors Maud, en fait, bon déjà, je rappelle, la pâte brisée, c'est quatre ingrédients, hein, c'est assez simple, c'est 250 g de farine, 125 g de beurre, pommade, et c'est peut-être là, Maud, que vous vous trompez, un jaune d'œuf et 50 g d'eau froide.
Pourquoi l'eau froide ?
Enfin, on met de l'eau froide, en fait, pour pas cuire les ingrédients, en fait, il faut pas qu'il y ait un choc de température. On met du beurre pommade, justement, pour qu'il s'incorpore plus facilement. Le beurre pommade, en fait, ça veut dire que le beurre, il faut tout simplement le sortir du réfrigérateur, aller environ une heure avant de l'utiliser.
Et ensuite, la pâte, on la met au frigo pendant combien de temps ?
La pâte, on la met au frigo une fois qu'on l'a foncée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis dans notre moule, on va la mettre au frigo environ une heure aussi. On la pique pour qu'elle ne gonfle pas, et après on la met au four.
Bonjour Christy Lapelle-Edouelle.
Bonjour Ali.
Lady Crumble pour certains initiés.
Autrice. Dans la cuisine.
Ça c'est de la pâte sablée, ça.
Autrice. Absolument. Autrice de ces livres qui nous font du bien chez Marabout, et on commence avec vous. Christy Lapelle-Edouelle, vous avez donc choisi deux romans de la Suédoise Katarina Mazetti. Alors, Le mec de la tombe d'à côté et Le caveau de famille, deux poches publiées chez Babel. Les titres, bon, a priori...
Hein oui, les titres, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le livre, dirais-je. Hein. Peut-être même, passons sur les titres, mais ne vous laissez pas avoir aux titres. Il faut aller voir de plus près de quoi il est question. Alors, Katarina Mazetti, c'est une ancienne journaliste. On pourrait penser qu'elle est italienne, mais pas du tout. Suédoise pur jus, une journaliste qui a fait une carrière et puis qui a eu la particularité, elle est toujours de ce monde, rassurez-vous, mais elle a vécu pendant longtemps à la campagne avec un agriculteur. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est précisément le sujet de son premier livre. Donc, le premier, c'est Le mec de la tombe d'à côté. Et tout repose, évidemment, comme toujours, toutes les bonnes recettes d'une bonne comédie sentimentale, c'est le quiproquo. Voilà, la différence de genre, pas de genre sexué, mais de genre social, et les quiproquos. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe dans ce roman qui est par ailleurs extrêmement drôle ? L'héroïne, alors c'est deux voix, hein, lui et elle parlent alternativement dans le livre. Elle est bibliothécaire et lui est agriculteur. Bon, on voit tout de suite, choc des cultures, pas du tout la même chose. Et ils se retrouvent régulièrement, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, donc, d'où la tombe d'à côté, au cimetière où elle vient parce qu'elle est une toute jeune veuve et lui vient sur la tombe de sa mère qui est décédée quelque temps auparavant. Voilà. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se regarder, ils vont se sourire et là, le sourire va tout transcender. Mais ça, c'est le début. Le début est vraiment très bien. On se dit, ah, coup de foudre, c'est merveilleux, tout ça. Mais évidemment, la réalité va les rattraper. La différence sociale, la différence de culture. Lui, il ne lit pas du tout. Il s'en fiche complètement. Il est très drôle. Elle est très drôle aussi. Alors, c'est là-dessus que les choses vont s'harmoniser sur cet humour qui les réunit. Et puis ils vont, alors c'est pas seulement drôle, c'est aussi vraiment une vision, une analyse très fine, très intelligente de la manière dont les relations se mettent en place et des difficultés sociales, là pour le coup, à surmonter pour arriver à trouver une harmonie, un équilibre dans une relation amoureuse, et là en l'occurrence une relation amoureuse débutante. Voilà, c'est plein d'humour, on s'y retrouve très très bien, et si vous avez envie de lire la suite, eh bien c'est le roman suivant.
Alors là on parlait de le mec de la tombe d'à côté, et là ?
Et là, c'est le caveau de famille. Alors, je ne vous dis rien, je ne vous dis pas pourquoi le caveau de famille. Toujours est-il que dans ce numéro 2, donc la suite, il sera question d'enfants, de maternité, de paternité et de famille. Est-ce que on va mettre en route un enfant ou pas ? Voilà, toute la question est là. Et comment ? Parce que les choses ne sont pas aussi simples qu'on aimerait les voir. Franchement, c'est du très bon niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui des romans feel-good, dénomination horreur, mais de comédie romantique, intelligente et marrante. Voilà.
Le mec de la tombe d'à côté et le caveau de famille de Katharina Mazzetti, c'est publié chez Babel en poche. Et tous ces conseils, vous pouvez évidemment les retrouver sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, il est déjà l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors Guillemette, qui mérite notre amitié cette semaine ?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me demande toujours si l'on peut rester romantique dans un monde obsédé par le contrôle, allergique à la vulnérabilité, et pourtant nous voyons bien depuis 2 ans à quel point nous pouvons l'être, et où nos vies sont de plus en plus régies par le marketing. Eh bien, je voudrais vous présenter un homme qui, sous son costume impeccable de prince de la pub, cache des profondeurs de romantisme, c'est-à-dire de quête complexe et désespérée de vérité. Mon ami Don Draper. Le héros de la série Mad Men, chef-d'œuvre de 7 saisons en 92 épisodes, devenu au moment de sa diffusion il y a quelques années un phénomène culturel, tant son esthétique, mais surtout sa profondeur existentielle était sidérante. New York, fin des années 1950, agence publicitaire Sterling Cooper. Et parmi les hommes qui fument sans cesse et boivent du whisky à 11h du mat, il y a Don. Ce très bel homme a quelque chose d'un Cary Grant, mais vidé à force de porter un secret. Cela tombe bien car il est marié avec un clone de Grace Kelly, en mode incarnation de la solitude féminine. Le secret de Don ? Une double et douloureuse identité. En fait, Don est un transfuge. Il est une anomalie dans ce monde chic et clinquant d'une Amérique qui est en train de comprendre qu'avec une bonne formule publicitaire, on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Don Draper séduit sur tous les fronts. Le soir, toutes les femmes veulent coucher avec ce mari infidèle. Et dans la journée, quand il daigne venir au bureau, son métier consiste à mettre des mots sur des désirs. Mais en fait, si Don se veut capable de vendre la lune, c'est parce qu'il cherche à la décrocher. Et en attendant, il fait comme Gatsby le Magnifique. Transfuge mélancolique, il se réinvente et fait semblant de participer à la fête en s'y perdant. Mais comme le demandait justement Scott Fitzgerald, est-il vraiment possible d'échapper à soi-même ? Don est un romantique perdu au royaume des mensonges et des apparences. Il y a un moment entre mille dans cette somptueuse série où il se révèle. Dans l'épisode 13 de la saison 1, il doit présenter aux dirigeants de Kodak la campagne de pub qu'il a conçue pour vanter leur dernière innovation. Alors, je vous rappelle que nous sommes à l'orée des années 60. Cette roue dans laquelle on insère les diapositives, vous savez, pour les projeter de manière automatique. Évidemment, les dirigeants s'attendent à une réclame qui met en valeur la nouveauté technologique de l'objet. Mais Don lance la roue dans laquelle il a disposé des diapos de sa propre vie de famille.
Teddy m'a appris qu'en grec, nostalgie signifiait littéralement une blessure ancienne qui fait toujours mal. C'est un pincement au cœur, teinté de regrets, et bien plus puissant qu'un simple souvenir. Grâce à cette machine, on ne vole pas dans l'espace. On remonte le temps. Elle nous ouvre les portes d'une époque perdue que l'on rêve de retrouver. Cette chose n'est pas une roue. C'est un carrousel. Grâce à lui, on voyage comme un enfant sur un manège. On tourne et on tourne, et on retourne au point de départ. Ce lieu magique où on se savait aimé.
Et oui, une machine où on appuie sur le bouton en avant, en arrière, juste pour se savoir aimé ou rêver de l'être. Il y a un détail que les fans de cette série ont tous remarqué. Très souvent, les personnages, et particulièrement Don, sont filmés de dos. Et on pense à une figure romantique par excellence. Ce voyageur contemplant une mer du nuage, peint en 1817 par Caspar David Friedrich.
Don Draper arrivera-t-il à trouver son chemin dans cette mer de nuages ?
Mais il est comme nous, Ali, mon magnifique ami Don Draper. Comme nous qui tentons de présenter au monde une pub de nous-mêmes. Il refusera encore d'être vulnérable, le deviendra de plus en plus au fil des saisons, et sans donc vous dévoiler la fin de la série, il va tout remettre en question. Fitzgerald, encore lui, a écrit « Il n'y a pas de deuxième acte dans la vie d'un Américain. Il n'y a pas de deuxième acte, quelle que soit notre nationalité. Alors autant s'autoriser tout le romantisme du monde dans le premier acte. »
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est une très belle lecture d'un personnage qui, au premier abord, peut paraître quand même plus sombre. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de l'accompagner au long de toute la série. C'est la puissance d'une série que de pouvoir offrir l'évolution d'un personnage, de découvrir petit à petit ses facettes. Le Don Draper des peut-être deux ou trois premiers épisodes ne révélera pas spontanément ce romantisme nostalgique que Guimet a décrit. En revanche, le Don Draper qu'on va suivre et qu'on va accompagner sur ces sept saisons, effectivement, il va nous conduire à une connaissance, pas exhaustive, mais très profonde de ce personnage.
Et puisqu'on parle de série, n'oubliez pas d'écouter Une heure en série de notre camarade Xavier Le Herpeur le samedi à 20h. L'ami du vendredi de Guimet Todicino a partagé et a podcasté sur les applis France Inter et Radio France. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Poux-Jalaguier, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan. La programmation musicale, Valentine Chedebois. La technique cette semaine, le duo de choc, Apolline Laverdure et Kevin Pelot. Et ce matin, Laurent Baudouin. Dans un instant, quelques comédies romantiques qui font du bien. Et on écoute Nancy et Frank Sinatra. Something stupid.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But
Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Nancy et Frank Sinatra, Something Stupid.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, on s'intéresse aux bienfaits des comédies romantiques. Elle et lui, Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, Le journal de Bridget Jones, L'arnaqueur, Quatre mariages et un enterrement. Un genre pas seulement anglo-saxon et qui déborde le cinéma. Des fictions qu'on aime voir et revoir avec plaisir, seul, à deux ou en famille. Et nous accueillons Marianne Lévy, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes romancière, spécialiste de culture pop, scénariste d'une comédie romantique de Noël, diffusée sur Netflix, ça s'appelle Christmas Flow, grande amatrice de comédie romantique. Expliquez-nous ce goût.
Juste, je précise que je suis co-créatrice. On était trois créateurs de Christmas Flow. Je trouve ça normal pour mes copains, mes camarades. Pourquoi la comédie romantique? Écoutez, j'ai une réponse sérieuse et une réponse pas sérieuse.
Alors, les deux.
Alors, je commence par la sérieuse. On a tous nos catalogues de gênance. On est tous comme Don Draper, la magnifique chronique de Guillemette, et on se cache tous derrière une histoire qu'on aime raconter aux autres. Et c'est quand même le grand défi de la vie, je pense, d'arriver à se débarrasser de ce masque et de se présenter à l'autre comme on l'est. Voilà. Et finalement, je réponds toujours à cette question qu'à la fin de notre vie, on s'en fout un peu du PIB de la Corée du Nord, même si c'est très important. La vraie question, la seule question, c'est est-ce qu'on a bien aimé, est-ce qu'on a bien été aimé. Et voilà, c'est pour ça que c'est la matière que j'adore travailler. Et en plus, ça donne lieu à des scènes d'un burlesque dingue. Et moi, j'adore écrire des scènes burlesques.
Thibaut de Saint-Maurice, c'est quoi exactement une comédie romantique?
Moi, ce qui me paraît essentiel, c'est que dans la comédie romantique, se joue la possibilité d'une rencontre au sens et d'une surprise d'une reconnaissance réciproque entre deux individus. Je crois que c'est vraiment le genre au cinéma qui est le genre du couple par excellence et dont l'enjeu est toujours de se reposer cette question qui est de dire est-ce que c'est possible de rencontrer vraiment quelqu'un, c'est-à-dire de le voir vraiment, de le reconnaître vraiment, et c'est-à-dire aussi d'être reconnu et d'être vu par lui. Voilà.
Guillemette Odissino.
Oui, d'autant que comme le disait Christilla en début d'émission, la plupart des comédies romantiques reposent sur la notion d'antagonisme. C'est-à-dire on a vraiment au départ deux personnes, un homme, une femme, ou deux hommes, ou deux femmes, qui arrivent avec des différences, si ce n'est même des choses qui sont normalement pas conciliables. Et tout le jeu comique va reposer sur ça. C'est-à-dire, même Hollywood, la grande époque, c'est on se crêpe le chignon, on est même ennemi politique. Et soudainement, ce masque dont Marianne parlait va s'effacer pour se dire qu'en face, on a finalement un alter ego qui est enrichissant au-delà du masque social, au-delà du CV, au-delà de la carte de visite, au-delà de tout ça. C'est-à-dire quelque chose qui est du domaine de la complicité débarrassée du reste du monde et de ses entraves.
Marianne Lévy.
D'ailleurs, pour rebondir, ce que je trouve c'est très intéressant, ça, parce que finalement, ça a presque une dimension politique aujourd'hui, puisque la différence, c'est pas forcément la notion qui est la plus partagée aujourd'hui. Il suffit d'écouter ce qui se dit dans la campagne. Et je trouve ça assez génial que finalement, voilà, ce que disent ces films, ce que disent ces séries, ce que disent ces romans, c'est qu'en fait, l'autre très différent, c'est peut-être... C'est peut-être nous, c'est peut-être la meilleure personne pour nous. Et je trouve ça, du coup, super intéressant aujourd'hui.
il y a une utopie politique de la comédie romantique qui est de dire qu'en fait l'amour nous met à égalité et que ce soit le chef d'entreprise ou l'ouvrier ou l'ouvrière, etc. En fait, quelle que soit la position sociale, on peut se rencontrer, on peut s'aimer. On sait que ça marche pas toujours comme ça dans la vraie vie.
C'est pour ça que ça s'appelle une comédie.
Et c'est pour ça que ça s'appelle une comédie romantique. Mais il y a une forme d'utopie très démocratique de la comédie romantique, qui est que c'est un homme, une femme et une voix, en fait, voilà. Chacun compte, et il y a une forme d'égalité des chances, et donc il y a un truc qui est très émancipateur.
Et quels sont les invariants des comédies romantiques ?
Il y a un invariant, moi, qui m'amuse beaucoup, c'est que souvent, ça se passe dans des moments qui sont des moments un peu de suspension. C'est des vacances, c'est un week-end où on est en dehors de ses activités. Je pense à l'impossible Monsieur Bébé, par exemple, où on part en week-end dans le Connecticut et donc on n'est pas à son travail. Ou alors, au contraire, il y a un imprévu et on se retrouve bloqué dans une salle d'attente d'aéroport avec quelqu'un avec qui on n'aurait pas dû, ou dans un trajet en train, etc. Des moments un peu comme ça, suspendus.
Il y a quelque chose quand même dans les scénarios, enfin dans la mécanique, qui est souvent la même, c'est-à-dire pratiquement aux trois quarts du film, les antagonismes qui étaient doux jusque-là, tout d'un coup, il y a un pic d'antagonisme, souvent donc une rupture, et la prise de conscience de l'absence de l'autre, et hop, et ça nous emmène au happy end. Donc il y a vraiment à un moment crépage de chignon extrême pour arriver à la notion de « j'ai besoin de l'autre ».
Et parmi les thématiques que l'on retrouve dans de nombreuses comédies romantiques, il y a le mythe du destin, Thibaut de Saint-Maurice, on était fait l'un pour l'autre, le mythe de l'âme sœur, en dépit des péripéties qui vont mener au happy end.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux scénarios, il y a deux lignes narratives différentes. Il y a la rencontre relève du pur hasard. Voilà, c'est deux personnages que rien ne devait se faire se rencontrer et qui se rencontrent. Et il y a une autre narration qui est, en fait, tout était déjà écrit d'avance, et évidemment, en fait, quand on les connaît un peu, ils devaient finir l'un pour l'autre. Et alors, je pense que c'est la question qu'on se pose tous dans nos vies amoureuses, et c'est aussi pour ça que ces films-là sont amusants à voir, c'est que c'est à chaque fois des essais sur la trame de ces deux lignes-là.
Marianne Lévy.
Et puis, on les aime aussi, ces comédies romantiques, grâce aux personnages secondaires. Il y a toujours une espèce de bande comme ça qui, c'est comme un peu sur un terrain de sport, ils font corps pour que cette histoire d'amour, elle arrive, pour qu'elle réussisse, pour justement être plus fort que l'équiproquo. Et notamment dans les comédies britanniques anglaises, il y a des personnages qui sont devenus iconiques, qui sont délicieux de tendresse et de transgression aussi.
Grégory Cohen, pourquoi aimez-vous regarder des comédies romantiques, seul ou à deux ?
Non, la comédie romantique, ça nous ramène à un idéal, à un champ du possible. C'est deux solitudes qui se retrouvent, qui se découvrent et qui finalement s'apprivoisent, et il y a toujours ce côté hyper souriant en se disant waouh, c'est exceptionnel, c'est génial. Après, ce qui est encore mieux, c'est de vivre sa comédie romantique dans la vraie vie.
Et dans la lignée de notre émission consacrée au couple parfait mercredi dernier, les comédies romantiques sont-elles des contes illusoires qui suscitent une forme de frustration en nous faisant rêver à des amours idéales et irréels?
Elles ont beaucoup évolué aujourd'hui. Enfin, on n'est plus dans le stéréotype hétéronormé. Il y a beaucoup de comédies. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un film. J'espère que c'est possible de encore le voir, qui a été diffusé dans le cadre du festival Diasporama, qui s'appelle Kiss Me Kosher, qui est une comédie romantique sur fond de Shoah, conflit israélo-palestinien entre deux jeunes femmes qui s'aiment et qui veulent se marier. L'une est allemande, l'autre est israélienne. Ça pose des problèmes au niveau des grands-parents, ça aborde plein de choses, et on est loin du conte de fées, enfin, on est très ancré dans une réalité.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, et puis il ne faut pas forcément attendre que la fiction mime la réalité de façon la plus réaliste possible. La fiction, elle a aussi une fonction d'enchantement, de poésie.
Oui, mais elle nous impose des imaginaires aussi, des imaginaires amoureux.
Alors oui, si elle nous les impose, on est d'accord que ça peut être compliqué. En revanche, dans la diversité qu'il existe aujourd'hui de ce format-là, on a justement une variation possible au sens musical des imaginaires qui permet au contraire à chacun de recomposer presque par mosaïque son propre imaginaire amoureux.
Maya Mazorette.
Et puis c'est vrai que des fois on n'aurait pas envie que ça se passe comme dans une comédie romantique parce qu'il y a beaucoup trop d'obstacles. Alors évidemment on a besoin des obstacles pour créer du désir, mais souvent... moi, dans mon champ, on parle d'un truc qui s'appelle l'escalator émotionnel, c'est-à-dire que quand on entre dans une relation avec quelqu'un, Et bah, ça se passe pas trop mal, donc on continue, donc on se revoit, donc on emménage ensemble, donc on fait des enfants, on n'a jamais rien décidé. Alors que dans les comédies romantiques, comme il y a beaucoup d'obstacles, et bah, il faut faire les décisions à chaque fois. Et ça, c'est intéressant.
Oui, mais c'est ça qui est très intéressant, parce que même si effectivement la comédie romantique reste un conte, on peut penser que c'est inatteignable, ce genre de relation, etc. Ce que ça nous apprend en creux, c'est que quand il y a des obstacles, parce que tout n'est pas simplement un ascenseur, mais il peut y en avoir, que ça peut nous donner comme ça des espèces de bouffées de liberté, en pensant que, bah oui, finalement, on peut courir dans l'appartement du mec pour lui dire qu'on l'aime, même si on a honte de le dire, on peut envoyer une lettre, on peut envoyer un texto un peu aventureux, on peut, enfin, on peut. Des détails, mais la comédie romantique nous prouve qu'avec quelques petits détails et quelques réactions un peu libres, on peut aussi changer le cours d'un amour et d'une vie.
Thibaut de Saint-Maurice, est-ce que la comédie romantique peut avoir des vertus thérapeutiques ?
Oui, alors souvent c'est la caricature de j'ai eu une vécue dans ma vie, une rupture amoureuse, et donc je me mets dans mon canapé avec un pot de glace et je regarde des comédies romantiques. Alors pourquoi pas, mais je pense que ça fonctionne aussi bien avec les films d'action et ou avec de la musique, qu'elle soit triste ou au contraire un peu énervée. Ce qui me plaît dans l'idée d'une vertu thérapeutique de la fiction, c'est en fait le fait que notre relation avec la fiction, c'est une relation d'engagement et qui finalement nous transforme, nous conduit à nous transformer. Et je pense essentiellement pour une raison, et c'est peut-être ça en fait qui fait que quand on est triste, on aime quand même regarder des comédies romantiques. C'est que c'est en une heure et demie de temps à peu près dans une comédie romantique, c'est un très beau récit, un très beau spectacle de la possible transformation des êtres. C'est-à-dire qu'au début, on est borné, on est un dirigeant, un avocat, on comprend rien, on voit rien, on voit pas celui ou celle qui est devant nous, etc. Et en 1h30 de temps et de péripéties, on a changé. Et en fait, peut-être c'est ça, quand on est triste parce que voilà, la vie est compliquée, on est content. On est heureux, ça nous fait du bien de voir des personnages qui nous convainquent à nouveau que la transformation de soi est possible.
Christina Pellegrini.
Oui, mais c'est aussi la question de l'identification. Hein. Quand on va mal, on n'a pas envie de voir des choses ou de lire des choses rigolotes. On a plutôt envie de voir que d'autres avec nous souffrent, passent par des épisodes difficiles et en effet triomphent, ou pas d'ailleurs, mais triomphent à la fin. Et c'est vraiment cette histoire de l'identification. On n'est pas tout seul. On n'est pas seul face à des difficultés, face à la tristesse, face aux problèmes de relation.
Allez, petite sélection de comédies romantiques pour ce week-end. On commence avec The Holiday.
Iris et Amanda sont confrontées au même problème.
Je me retrouve seule, déprimée, Noël approche, une solution s'impose.
À 9000 km de distance.
On pourrait échanger
nos maisons et nos voitures.
Oui, tout. Mais avant,
j'ai besoin de savoir
combien il y a dans ta ville
de 10 représentants du sexe masculin.
Parfait.
Thibaut de Saint-Maurice, pourquoi aimez-vous encore et toujours The Holiday de Nancy Meyer avec Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet et Jack Black ?
Parce que c'est génial.
Merci.
Non, parce que c'est une très belle. Alors c'est une très bonne comédie romantique. C'est vraiment le script romantique. Voilà, il est vraiment très bien fait, etc.
Ça raconte quoi en deux mots ?
Ça raconte quoi en deux mots ? Ça raconte une sorte d'échange de maisons. Ce sont deux jeunes femmes, Cameron Diaz et Kate Winslet, qui échangent leur maison à l'occasion de vacances d'hiver ou de Noël. Je me souviens plus très bien. Et en fait, toutes deux, donc il y en a une qui dans le milieu du cinéma à Los Angeles et l'autre qui vit dans un petit cottage perdu de la campagne anglaise. Et en fait, elles échangent leur maison pour des vacances et chacune sur place va rencontrer quelqu'un, un homme qui est dans le cercle de la dame, enfin de la personne à qui elle a échangé la maison. En fait, ce qui est très beau aussi dans cette comédie, alors deux secondes, mais c'est tout le sous-texte historico-géographique. C'est-à-dire que c'est entre l'Angleterre et les États-Unis, et donc ça raconte quelque chose aussi de cette transmission de la tradition de la comédie anglaise, shakespearienne, old comedy, et de la new comedy de Hollywood et des années 30-40, de la screwball comedy. Et donc ce qui est drôle, c'est que Cameron Diaz, qui travaille à Hollywood et qui donc est dans cet héritage de la comédie contemporaine du cinéma, va retomber amoureuse de Jude Law, qui lui est un éditeur traditionnel anglais, et au contraire, l'anglaise, elle, va tomber amoureuse d'un compositeur de musique de comédie actuelle à Hollywood, etc. Donc il y a une forme, ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a une réconciliation entre deux deux traditions de la comédie romantique, la old comedy du théâtre et la new comedy, screwball comedy des années 40, de 50 à Hollywood. Et ça, ça donne le meilleur de la comédie romantique d'aujourd'hui.
Grégory Cohen, pourquoi cette comédie romantique vous fait du bien ?
Ah, j'adore parce que vraiment c'est aussi alors de façon toute simple, c'est deux femmes qui vont pas bien chacune de leur côté, chacune de chaque côté du monde, qui vont échanger effectivement leur maison et leur vie d'une certaine façon. Et qui vont se redécouvrir, sont les femmes qui sont au centre de cette comédie romantique. L'homme en fait il gravite autour, mais c'est pas le personnage principal. Il en sort quelque chose de génial, de feel good et de très émotionnel. Moi j'adore cette.
Ça résonne en vous ?
Ah oui complètement. Ça résonne énormément, Alice.
Mais non, mais je voulais savoir pourquoi. Moi, je suis curieux.
Mais il a un petit cœur en sucre.
Parce que c'est du pur plaisir. C'est un plaisir. On laisse parler nos émotions. On est empathique avec ces femmes. C'est génial.
Petite parenthèse, vous conseillez à ceux qui sont célibataires, par exemple, le soir de la Saint-Valentin, de regarder des comédies romantiques ?
Comment dire, on va pas leur rajouter une injonction supplémentaire.
Surtout
parce que c'est quand même la journée où il y a des injonctions qui leur pèsent dessus. Je leur conseille de faire absolument ce qu'ils veulent.
Oui.
Ça pose une autre question qui est, mettons de côté, voilà, juste le célibat, mais qui est de savoir si regarder des comédies romantiques, ça constitue une forme de mode d'emploi ou de grammaire ou de projection possible, une sorte d'entraînement en fait de sa propre vie amoureuse à soi. Et ça, je pense que voilà, c'est une question dont on peut largement débattre.
Marianne Lévy, alors vous avez choisi Bless This Mess, une série romantique disponible chez Disney+.
Ah oui, alors c'est un petit bijou que j'ai découvert totalement par hasard en errant avec ma télécommande. Et alors je suis super contente d'avoir eu cette soirée de désespoir parce que je suis tombée sur un truc absolument génial, qui est un peu la rencontre entre Woody Allen et Nora Ephron, hein, la grande papesse de la comédie romantique, qui est notamment l'auteur de Quand Harry rencontre Sally. C'est un couple de New-Yorkais trentenaires. Un peu des hipsters, qui partent dans l'Arkansas parce qu'ils ont décidé, comme beaucoup de gens pendant le Covid, de s'installer à la campagne et de s'engager dans une existence de néo-rural. Et voilà, ils sont là, ils arrivent dans l'Amérique de Trump, en fait, parce que chez des gens d'air très sympas, pas comme Trump. Et c'est aussi intéressant de voir d'où ça vient aussi. Qui sont ces gens, en fait, qui sont très loin de nous? Et alors, c'est une constellation de comédie romantique, ce truc. Parce qu'il y a donc ce couple qui essaye de se reconstruire, essaye d'avoir un enfant. Et puis, il y a tous les gens du petit village, et ils ont tous des grosses galères amoureuses, comme nous tous. Alors, c'est vraiment un choc culturel et un choc émotionnel, et c'est hilarant. Alors vraiment, je vous mets au défi de pas mourir de rire en la regardant.
Bless This Mess, c'est une série disponible chez Disney+. Alors Guillemette Odissino, je vous ai fortement conseillé, très fortement conseillé.
Oui, je ne suis pas tombée par hasard dessus, moi.
Une série romantique que j'adore, c'est une série britannique, ça s'appelle Love Sick, comme maladie d'amour. Love Sick, disponible sur Netflix. Alors c'est un jeune homme qui doit recontacter ses anciennes petites amies après l'annonce d'une maladie vénérienne. A priori, une série pas très glamour. Et c'est l'occasion d'aller-retour entre le présent et le passé. Enfin, moi, c'est une série romantique que j'adore, qui est sortie en 2017.
Oui, absolument. Donc, c'est effectivement Dylan qui apprend qu'il a une maladie vénérienne et un blond. Alors, ce qui est déjà intéressant en soi, c'est que c'est un petit blond assez sexy, mais alors qui est tellement sentimental. Mais enfin, il couche avec énormément de filles, mais parce qu'il est sentimental, parce que il est toujours, mais il boit un café avec elle, il est déjà amoureux, quoi. Et mais bon, donc il couche beaucoup, et comme il apprend qu'il a eu une maladie vénérienne, alors il couche beaucoup sans préservatif, hein, à l'évidence, donc ça c'est pas très bien, mais bon. Et comme il apprend qu'il a une maladie vénérienne, il doit recontacter donc ses anciennes maîtresses, ce qui fait que chaque épisode porte le prénom d'une jeune femme et repose là-dessus. C'est-à-dire, comme il doit les prévenir, en fait, on fait un flashback à chaque fois. Quelle a été la rencontre de Dylan avec cette personne, avec cette jeune femme, comment ça s'est passé, mais surtout, comment on réagit autour de lui, son meilleur ami et sa meilleure amie, qui sont donc Luke et Evie. Parce qu'en fait, il vit plus ou moins en colocation avec son meilleur pote, alors qu'il, lui, est un dragueur soi-disant sans cœur. Et Evie, qui, elle, est la meilleure copine, mais on se demande si elle n'est pas un peu amoureuse de Dylan. Et en fait, tout ça compose aussi une série sur l'amitié, absolument, mais délicieuse, même à des moments bouleversantes, Alors, vous prenez en fait Friends, vous voyez, cette espèce de chose, après on peut plus passer d'eux, de ces personnages. Mmh. Donc, vous prenez Friends, vous mariez ça, c'est le cas de le dire, avec un peu quatre mariages et un enterrement, vous voyez, cet humour britannique qui peut être complètement trivial et complètement déchirant à certains moments. Vous mélangez l'ensemble, c'est, mais vraiment, mais délicieux, extrêmement attachant, extrêmement drôle.
Émouvant.
Émouvant, so british partout. Et dedans, il y a Evie, elle est interprétée par Antonia Thomas. Cette actrice est une... C'est un diamant. On peut la voir dans The Good Doctor aussi. Cette actrice est un diamant.
Love Sick, 3 saisons à voir sur Netflix. Love, love, love. Love. Christine Appeletoile, vous en avez pas marre de regarder encore et toujours Love Actually de Richard Curtis avec Hugh Grant, Liam Neeson, Alan Rickman, Emma Thompson, Keira Knightley. Vous en avez pas marre?
Non, j'en ai pas marre.
Pourquoi vous l'adorez cette comédie
romantique? Je n'en ai jamais
assez.
Tous les ans à Noël, je le regarde, c'est obligatoire. C'est le parangon de la comédie romantique et britannique. Il y a tout dedans, les acteurs, vous venez de le dire.
Pourquoi ça vous fait du bien?
Ah, mais ça me fait rire d'abord, ça me fait vraiment rire parce que c'est tordant, le scénario est génial, les dialogues sont à tomber par terre tellement ils sont drôles, les personnages existent, c'est délicieux quoi, c'est vraiment délicieux. Et je ne sais plus où j'en étais, vous m'avez emmené sur un chemin.
On voudrait tous avoir un premier ministre comme ça.
Un premier ministre qui danse, d'ailleurs c'est ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si Boris Johnson ressemble à Hugh Grant, mais enfin
c'est
bon,
moins glamour.
L'amour, très nettement. Mais il y a des personnages géniaux. Alors, Emma Thompson, elle n'est pas seulement drôle, elle est bouleversante aussi dans son rôle de femme trompée qui découvre par hasard. Non, c'est vraiment le modèle de la comédie romantique, drôle, britannique, avec... c'est un millefeuille de situations, il y a quantité d'histoires, et puis il y a un moment, alors moi, rien que pour ça, enfin pour plusieurs, en fait pour tout, mais celui-là, Rowan Atkinson, Mr. Bean, en train de faire un paquet cadeau pour un bijou qui va être offert par le génial Alan Rickman à celle qu'il aimerait bien voir devenir sa maîtresse, et il est pressé, et Rowan Atkinson met au moins... Je sais pas, 50 ans pour faire son paquet en mettant des rubans et des bouts de cannelle. On se demande bien pourquoi les bouts de cannelle dans un paquet cadeau. Voilà, c'est franchement merveilleux.
Maïa Mazorette, un petit conseil.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé récemment Love and Anarchy, qui était sur Netflix. C'est une série suédoise. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a une quarantaine d'années, qui est dans une maison d'édition. Et qui vient d'y arriver, qui est très ambitieuse, et pour se détendre, elle fait ce qu'on fait toutes et tous, elle s'offre des petits plaisirs solitaires dans les toilettes, et le ravissant stagiaire qui est absolument sublimissime, Max, va tomber là-dessus, prendre une petite vidéo et lui poser un petit peu des défis pour récupérer la vidéo. Et en fait, grâce à ça, ils vont apprendre à mieux se connaître. Et puis peut-être va-t-il se passer plein de choses après. Je ne spoil pas.
Ça s'appelle comment ?
Love and Anarchy.
Et on peut le voir où ?
Sur Netflix.
Et Grégory Cohen, un petit conseil ?
Ah, moi, c'est Le Jour Sans Fin. Le Jour Sans Fin qui est exceptionnel.
Un Jour Sans Fin.
Exactement.
Harold Ramis.
Exactement, Harold Ramis. Harold Ramis, d'ailleurs, qui est acteur, scénariste d'Animal House, acteur, c'est un des trois dans Ghostbusters. Enfin, il est génialissime. C'est un type qui est interprété par Bill Murray. C'est Phil qui est pris dans une loupe temporelle. Et il va lui falloir à peu près 10 ans, puisque c'est le temps d'apprendre le français, de devenir un maître en sculpture sur glace et de devenir un virtuose au piano pour séduire Andy McDowell.
Et pourquoi vous ne vous en lassez pas ?
Parce que c'est exceptionnel, on a un type qui, Bill Murray, qui joue absolument bien le narcissique, acariâtre, égocentrique, qui passe par toutes les phases de ce qu'on pourrait imaginer. Il risque rien puisque le jour se refait et redémarre à zéro, donc il risque absolument rien. Il passe tout ce qui ne doit pas se faire, tout ce qui est politiquement incorrect, il le fait, il s'en fout complètement. Puis au bout d'un moment, il décide de changer, de faire un travail sur lui-même, parce qu'il découvre l'amour, et ça va être exceptionnel.
Et tous ces conseils, vous les retrouvez bien évidemment sur l'appli France Inter. Allez, il est déjà l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors, il y a mille manières de philosopher sur l'amour. Et vous, Thibaut de Saint-Maurice, vous vous demandez si l'amour est un destin ou une aventure.
Oui, allez, je me dis que ça peut faire aussi une bonne discussion pour un dîner avec son Valentin ou sa Valentine. Hein. Est-ce qu'on était fait l'un pour l'autre? Et dans ce cas, notre amour était-il écrit et nous devions finir ensemble, quels que soient les obstacles?
C'est risqué.
Voilà. Ou bien, autre option, est-ce que notre amour était une aventure, un choix que l'on a fait à partir du pur hasard d'une rencontre complètement inattendue? Ces deux options sont un peu les deux hypothèses avec lesquelles on se débat hein, pour raconter nos histoires d'amour. On hésite donc entre deux mythes, le mythe de l'âme sœur, de la moitié perdue mais qu'on a enfin retrouvée et avec laquelle on se sent au complet, ou le mythe de la surprise, le jeu de l'amour et du hasard, la pure contingence de la rencontre qui rend l'amour vécu d'autant plus précieux ou miraculeux que la rencontre aurait très bien pu ne pas avoir lieu.
Et c'est également la trame de bon nombre de comédies romantiques. Hein.
Oui, on en a parlé, c'est l'un des enjeux de la comédie romantique, hein, que d'articuler ces deux moments, et je crois d'ailleurs que le romantique de comédie romantique vient de là, c'est quand on assiste au passage du pur hasard de la rencontre, par exemple un coup de foudre, par exemple un coin de rue, par exemple d'un quartier de Notting Hill, à la nécessité du destin. Ils étaient donc bien faits l'un pour l'autre, malgré tout ce qui apparemment les opposait. Et quand on passe donc du hasard à la nécessité, on est bien dans une comédie romantique. Mais reste la question de fond pour nous qui les regardons, ces comédies romantiques. Est-ce que nos histoires d'amour à nous, elles sont déjà écrites ou est-ce qu'elles se construisent au gré de nos choix? Souvent, la passion amoureuse, elle nous échappe, on tombe amoureux, l'amour nous surprend et on a bien l'impression que la comédie amoureuse, eh bien, elle se joue sans qu'on y puisse grand-chose, sans qu'on puisse choisir grand-chose. Et d'un autre côté, si je ne maîtrise pas le surgissement du sentiment en moi, je tombe amoureux, ben, y a pourtant des choix que je peux faire ou ne pas faire. Je peux choisir de dire je t'aime ou de ne pas le dire. Je peux choisir de m'engager dans la relation, de ne pas m'engager. Je peux choisir de rendre publique cette relation ou de la conserver dans le secret des chambres d'hôtel. C'est peut-être là que se nouent les deux dimensions. Donc, l'amour me surprend, mais c'est à moi de l'embrasser. Punchline. C'est ce que nous dit, à sa manière, le philosophe Alain Badiou dans son Éloge de l'amour. Il pense notre relation à l'amour comme une relation à la vérité. Si nous aimons aimer, dit-il, c'est parce que nous aimons la vérité. Et les histoires d'amour sont des spectacles de vérité. Des spectacles où nous assistons à la naissance d'une vérité, précisément celle de la pure contingence d'une hypothèse, à la nécessité d'une conclusion. C'est le fameux baiser final de la comédie romantique. Ça n'était qu'une possibilité et ça devient la seule vérité qu'il y a à vivre. On ne peut plus faire autrement, on ne peut plus éviter cet amour naissant de manière aussi absolue que 2 plus 2 font 4. Ce passage du pur hasard de la rencontre à la nécessité de l'histoire d'amour à vivre ne se fait pas tout seul. Il dépend de nous, de notre liberté. Il dépend de chacun des amoureux, des amoureuses, de leur capacité à surmonter leur peur, à lâcher prise et à se laisser transformer par l'autre. Ça pourrait très bien ne pas marcher, mais pour ça, il faut dire son amour et le déclarer, comme l'écrit Badiou, je cite, « La déclaration d'amour est le passage du hasard au destin, et c'est pourquoi elle est si périlleuse, si chargée d'une sorte de trac effrayant. » Voilà, il vous reste 2 jours pour bosser sur la plus belle des déclarations et dire la vérité de votre amour à celui ou celle que vous aimez.
Le grain de sel de Guimet Odissino dans la chronique de son camarade Thibaut Saint-Maurice.
Ah bah oui, non, mais enfin, elle résonne tellement, je trouve, aussi avec la mienne, parce que c'est vraiment, c'est très beau ce que Thibaut dit. Ça part juste d'un vertige, d'un mystère, qui sont deux notions romantiques déjà en elles-mêmes, hein, le vertige et le mystère, pour arriver à une vérité qui est la quête absolue normalement de tout romantique, même des artistes romantiques. C'est de prendre cette vérité à bras-le-corps. Donc c'est vraiment vertige et vérité, je pense qu'il n'y a pas mieux.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice a partagé et a podcasté sur l'appli France Inter. Et merci Marianne Lévy d'être passée dans Grand Bien Vous Fasse. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures terrestres avec notre chef Grégory Cohen. Grégory Cohen, au menu de ce week-end ou de la Saint-Valentin, vous nous proposez un mi-cuit de dorade, gingembre, passion et piment.
Exactement, ça va être un ceviche de dorade. Alors avec forcément du gingembre, parce que c'est un petit peu aphrodisiaque, Maya. Un petit peu de piment, parce que ça va
relever. On n'est pas tout à fait sûr,
relever,
mais d'accord.
Dans l'inconscient collectif, ça va le faire.
L'effet placebo fonctionnera.
Et puis de la passion. Alors, on va avoir besoin de 300 g de poisson à chair blanche, ferme, donc de la dorade par exemple, évidemment, deux fruits de la passion, un oignon rouge, un petit piment rouge frais, une demi-cuillère de purée de gingembre frais aussi, un jus de citron vert et son zeste, deux cuillères à soupe d'huile d'olive verte, une cuillère à café de soja et une branche de coriandre. Alors on va retirer la peau du poisson, le détailler en cubes de 1 cm de diamètre, puis le disposer dans le fond d'un saladier avec du jus de citron. On va ajouter les oignons et la coriandre finement ciselés, ainsi que le piment coupé très finement et débarrassé de ses graines, puisqu'elles sont pas très digestes. On va mélanger ensuite les fruits de la passion, la purée de gingembre, l'huile d'olive et la sauce soja pour obtenir une sauce homogène qu'on va incorporer au poisson. On va le dresser dans une assiette à partager en zestant le citron vert dessus. Et c'est tout, le tour est joué. C'est frais, c'est épicé, c'est doux, c'est acide. C'est un plat totalement caliente pour cette Saint-Valentin qui va arriver.
C'est quoi un ceviche ?
Un ceviche, c'est du poisson cru en fait, qui est travaillé généralement avec une préparation acide. Pourquoi est-ce qu'on a dit mi-cuit tout à l'heure ? Parce qu'en fait, on va cuire avec le jus de citron le poisson.
La recette de Grégory Cohen à retrouver sur votre compte Instagram, Grégory Cohen Off, off avec
deux F.
Et dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette, juste après le tout nouveau single de Sébastien Tellier, Porté par le vent. On vient d'écouter le tout nouveau single de Sébastien Tellier, Porté par le vent.
Ouh, et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Maya Mazorette, tu t'attaques à une grande question. Faut-il être amoureux pour faire l'amour ?
Eh oui, une grande question qu'on pourrait expédier de manière lapidaire. S'il fallait être amoureux pour faire l'amour, alors les hommes, plutôt que du Viagra, avaleraient des rediffusions de Cendrillon. Et surtout, croyez-moi, le patriarcat nous aurait refourgué 365 Saint-Valentin par an. Or, je ne sais pas si vous avez mis le nez dehors récemment, mais la Saint-Valentin 2022, j'ai bien l'impression qu'elle a été complètement annulée. Moi, d'habitude, la première moitié de février, c'est ma Fashion Week. Je reçois 50 emails par jour d'attachés de presse qui veulent que je fasse la promotion de leur lingerie, des bouquins, des films, des sextoys. Ce grand cirque de la Saint-Valentin, il commence dès la mi-décembre. Or, ça fait presque 20 ans que je fais ce métier et c'est la première fois que je vois un manque d'enthousiasme aussi absolu. Tout le monde a l'air de se contrecarrer de cette Saint-Valentin. On a l'impression que dans le calendrier, on va passer du 13 au 15 février direct. Chez mon fleuriste, il y a des mimosas et des orchidées, mais toujours pas de roses. Les chocolatiers sont en grève, les vendeurs de roses et pétillants sont en dépression. Hier soir, dans mon supermarché de quartier, il n'y avait pas une promo deux en un sur les fourrés au gingembre, même pas l'ombre d'une bougie parfumée ou qui sait de lubrifiant parfumé. Le seul produit que j'ai pu trouver en rapport avec la Saint-Valentin authentique, c'était un plateau de sushis dont l'emballage plastique était en forme de cœur. Là, c'est plus le service minimum, c'est carrément la demande de divorce mal camouflée ou le triomphe du nihilisme amoureux, je sais pas. Donc, sauf si la France de l'amour se réveille dans les trois prochains jours, après tout, on sait jamais, il faudra se rendre à l'évidence. Heureusement qu'on a parlé de passion amoureuse pendant une heure dans cette émission, parce que là, dehors, clairement, le temps n'est pas à la romance.
D'accord, mais le temps est-il plus clément pour la sexualité ?
Eh bien, pas non plus. Enfin, pas si on prend les Français au pied de la lettre, je m'explique. Selon la toute dernière enquête Ipsos publiée la semaine dernière, les deux tiers des Français estiment que les femmes doivent être amoureuses pour coucher. Car, comme chacun sait, nous autres femmes, Guillemette, Christina, moi, nous sommes nées dans des roses. Pour Guillemette, c'était une rose de Damas. Pour moi, c'était une Santiflora. Pour Christina, c'était sans doute une rose crumble. Alors, je précise mon chiffre. 61% des hommes et 69% des femmes pensent qu'une femme doit être amoureuse pour coucher. Et ça, ça nous apprend deux choses. La première, c'est qu'on patauge dans les stéréotypes sexistes, parce que cette question-là, on la pose jamais aux hommes. On part du principe qu'ils couchent quand ils en ont l'occasion et point barre. Au passage, d'ailleurs, quand on lit les enquêtes sur la sexualité des hommes, il n'est pas du tout absurde de se demander s'ils ont une âme. Donc ensuite, la deuxième conclusion que je retire de l'enquête Ipsos, c'est qu'en fait, les Français gardent une vision très romantique de l'expression « faire l'amour ». Pour eux, il y a une vraie différence avec avoir des rapports, ou faire du sexe, ou coucher, ou forniquer. Tout repose sur le choix des mots. Les sondeurs ne demandent jamais aux Français s'il faut être amoureux pour forniquer. Et ils ont bien raison, car comme chacun pourra le vérifier sur Internet, il y a des gens qui forniquent avec des pneus de voiture ou des tartes aux pommes. Donc, pour forniquer, l'objet amoureux n'est clairement pas nécessaire. J'ouvre une mini parenthèse. À mon humble avis, le grand talent de l'humanité, c'est pas d'avoir inventé les antibiotiques ou les cathédrales, c'est d'arriver à mettre un pénis dans absolument n'importe quoi. Je referme cette parenthèse et je reviens à nos histoires. Faut-il être amoureux pour faire l'amour ? Oui, évidemment, si et seulement si notre définition de l'expression « faire l'amour » est archi-traditionnelle.
Et ce n'est pas forcément le cas.
Non, et ça vaut la peine de le rappeler, il y a des personnes et même des femmes que l'absence d'amour libère. Des gens pour qui l'absence de sentiments autorise une forme de lâcher prise. Quand on est amoureux, il y a d'un seul coup beaucoup d'enjeux sur les rapports sexuels et c'est typiquement quelque chose qui peut nous faire perdre nos moyens. Du coup, lundi, quand nous serons toutes et tous devant nos plateaux de sushis, emballés dans du plastique en forme de cœur, avec notre bouquet de mimosa, à regarder le replay de l'invasion de l'Ukraine, on sera peut-être pas au sommet de la romance, mais ça veut pas dire que la seconde partie de la soirée sera forcément complètement nulle. En plus, on sera en pleine forme. Les sushis, c'est comme la ceviche de dorade. Ça se digère quand même vachement mieux que le combo saumon, huître, gingembre, chocolat. Alors qui sait, peut-être fallait-il tuer la Saint-Valentin pour pouvoir faire l'amour le jour de la Saint-Valentin. C'est tout le mal que je nous souhaite.
Et Guillemette Odissino, n'arrêtez pas d'acquiescer tout au long de votre chronique.
Tout à fait. Je faisais ce petit mouvement de tête. Oui, oui, oui. Parce que,
on a le même supermarché.
J'ai rien trouvé dans le supermarché, c'est vraiment une catastrophe. Mais, et surtout sur cette notion, en fait, des mots. C'est fou comme la langue française, qui pourtant est si riche, sur le fait de faire l'amour, donc c'est où faire l'amour, ce qui donne ces clichés sur le romantisme obligatoire pour coucher, ou alors c'est baiser, mais il n'y a pas, on manque de vocabulaire pour donner des nuances, degrés ou pas, degrés ou de force, à l'acte sexuel. C'est compliqué. Hein.
Ça n'existe pas, sexé.
On fera une émission.
En tout cas, c'est compliqué. Cherchons de nouveaux mots.
Allez, la chronique sexe de Maya Mazorette est à réécouter seule ou à deux, ou à plusieurs, sur l'appli France Inter.
Avec ses sushis.
Lundi, dans Grand Mets Vous Fasse, nous évoquerons les bienfaits de l'eau pour la santé, cure thermale, thalassothérapie, bain de mer ou dans une rivière, natation. Toutes vos questions et témoignages sur l'appli France Inter. Dans un instant, vous retrouvez Nagui et sa bande originale.